LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
La guerre froide, dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 7, les combattants sans gloire. C'est l'histoire de deux amis qui ne veulent plus combattre. Nicolas Saline et Igor Kovalchuk se rencontrent en Afghanistan. Ils sont prisonniers de guerre le jour où Victor Loupane s'entretient avec eux à l'occasion d'un reportage pour la télévision française. Si le discours de paix rivalise à l'ouest comme à l'est, si la guerre froide semble raconter une guerre sans combat, elle commence et se termine par deux conflits de grande ampleur qui n'ont toujours pas trouvé leur résolution aujourd'hui. C'est d'abord la guerre de Corée qui éclate en 1950 et laisse en 1953 un pays divisé entre un nord communiste et un sud occidentalisé et capitaliste. Et puis à l'autre bout de l'histoire de la guerre froide, il y a cette guerre d'Afghanistan de 1979 à 1989, une guerre dont l'histoire et la mémoire sont encore déterminantes dans l'ordre géopolitique mondial actuel. L'Union soviétique y perd son économie et la confiance des familles, tandis que les États-Unis y sèment le théâtre d'opérations et l'arsenal qui le taraude encore aujourd'hui. Nicolas et Igor collent presque trop bien à l'image que l'on veut montrer de ce conflit à l'ouest du mur de Berlin. Ce qui frappe, c'est d'abord leur extrême maigreur, avant même qu'ils ne racontent leur guerre.
Bonjour mes chers, je vous parle d'Afghanistan. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis vivant et en bonne santé et je vous dis un grand bonjour. Je ne sais pas ce que vous ont dit les autorités. Elles vous ont peut-être dit que j'étais un bandit, un assassin. Je ne sais pas ce qu'elles ont encore pu vous dire. Sachez seulement que je ne vous ai jamais trahi, que je vous aime, Michel, que je vous aimerai toujours. Si jamais j'avais la moindre occasion, je vous écrirais sans faute. Mais pour le moment, rien de tel ne s'est encore présenté. Je ne veux pas faire la guerre, je ne veux pas verser le sang. Et maintenant, recevez mon grand bonjour.
Deux ans plus tard, en 1987, on les redécouvre au Canada. Deux gaillards transfigurés dans la sécurité de leur refuge.
La guerre froide, c'est un conflit particulier dans lequel les deux principaux protagonistes et la poignée de protagonistes secondaires qui les accompagnent ne se font pas la guerre directement.
Alexandre Riosbord est historien, spécialiste de l'appareil d'État états-unien.
Et donc on a cette idée d'une guerre sans guerre. Alors il faut dire immédiatement que c'est une guerre sans guerre pour ses principaux protagonistes. En revanche, c'est une période de conflit pour beaucoup d'autres nations et pour beaucoup d'autres sociétés, pour des populations qui, elles, vont être, en partie pour des raisons liées à la guerre froide, parfois très directement pour des raisons de guerre froide, plongées dans des conflits. Donc c'est une guerre sans guerre dans le monde de l'Atlantique Nord, mais c'est une guerre avec guerre dans l'essentiel du reste du monde, en tout cas beaucoup en Afrique et en Asie. Donc pour des centaines de milliers, des millions de gens, la guerre froide, c'est une période de guerre intense qui provoque des conflits.
Le 27 décembre 1979, les unités spéciales du KGB débarquent à Kaboul pour soutenir les communistes afghans dans une guerre civile qui oppose les nationalistes aux moudjahidines. Les États-Unis soutiennent cette opposition. Nicolas Saline et Igor Kovalchuk, en 1985.
Au bureau de recrutement, il y avait le colonel Antonian et sa fille qui se shootait et qui baisait avec un de mes potes. Une fois, elle dit « Bon, c'est ok ton copain, qu'il me file 1000 roubles et je baratirai mon père. » Alors, je rentre à la maison et j'explique le coût des 1000 roubles à mon père. Il dit « D'accord ». Il s'habille pour aller à la caisse d'épargne et voilà que ma mère se met en travers de la porte. « Non, quelle gueule, fais pas ça, connard, il faut qu'il aille à l'armée. » Mais plus tard, quand je lui ai téléphoné pour la première fois d'Ashkabad, putain, alors tu auras entendu ces hurlements. Tu te rappelles des 1000 roubles? Il fallait me les donner, vieille conne. Elle me demande, tu vas aller où? En Afghanistan. On nous a embarqués sur des camions. Là-bas, on nous a dit, il faut aller combattre les Américains. Moi, quand j'ai reçu la convocation, je travaillais à l'usine comme électro. Tout de suite, je me suis présenté au bureau de recrutement.
Et tu savais où on allait t'envoyer?
Non. Je savais rien. Comment pouvais-je savoir? On nous a rassemblés et on nous a d'abord envoyés à Koubitchev. Et puis après, à Tashkent.
C'est là qu'on a prêté serment.
Et si je venais à parjurer ce serment solennel, que je sois frappé par le poids de la loi soviétique, le mépris des travailleurs et la haine universelle.
Le premier conflit de grande ampleur lié à la guerre froide avait commencé très vite, dans un monde qui se remettait encore péniblement de la Seconde Guerre mondiale. C'était en 1950 et c'était en Corée.
La guerre de Corée, c'est presque l'archétype de ce qu'on imaginait comme conflit secondaire dans la guerre froide. En fait, il n'y en a pas tant que ça qui correspondent à ce modèle-là.
Alexandre Riosbord.
Celle-là est archétypale, alors avec un investissement des deux acteurs, un investissement asymétrique. Les États-Unis sont sur le terrain, les Soviétiques n'y sont pas directement, ou alors de manière assez discrète. Ils livrent des matériaux. C'est les Chinois qui interviennent le plus directement. Et encore, officiellement, c'est une guerre coréenne. Donc on a bien cette nature de la guerre froide qui fait que les deux adversaires ne s'affrontent pas directement. L'un est là, mais pas l'autre. Mais même dans cette situation de Corée, les deux acteurs prennent garde de ne pas s'affronter directement. Dans les conflits de guerre froide spécifiquement, comme il ne faut pas en arriver du point de vue de l'un et de l'autre à un affrontement direct global, alors on est vraiment dans une discussion par les armes assez subtile qui consiste à faire ceci et pas cela pour ne pas monter au point d'intensité qui risquerait de provoquer une réaction qui entraînerait une réaction en chaîne vers autre chose. La plupart des conflits s'en tiennent à une implication indirecte des deux adversaires. La situation inverse sera l'Afghanistan. Les Russes sont directement impliqués sur le terrain, les Américains fortement impliqués dans l'aide aux adversaires des Soviétiques, à ceux qu'on appelle à l'époque les Mujahideen, combattants de la liberté. Mais les Américains prendront bien garde de ne pas intervenir sur le terrain. Toute la guerre froide, c'est un jeu de dialogue entre ce que l'on peut faire et ne pas faire.
Des guerres entre 1947 et 1989, il y en a beaucoup. Entre les guerres civiles et les guerres de décolonisation, les conflits se multiplient. Autant de fronts qui demandent à se fournir en armes et en soutien politique.
Ce que l'on peut dire, c'est que les enjeux de guerre froide vont avoir la fâcheuse tendance, si vous me passez l'expression, à se connecter à des conflits à toutes les échelles ou presque. Des conflits régionaux, des conflits locaux vont se teinter de guerre froide. Par une logique en fait assez simple, c'est que dès lors qu'il y a un conflit, et notamment dès lors que ce conflit implique un conflit armé, eh bien, la guerre froide offre l'opportunité aux belligérants de ce conflit de se tourner vers l'un ou vers l'autre. Et donc, de ce fait, la guerre froide a un impact sur les situations conflictuelles, les logiques conflictuelles durant cette période. Elle peut avoir, il faut le dire quand même si c'est le moins visible, même si c'est le moins spectaculaire et peut-être le moins fréquent, elle peut avoir un impact réduisant les conflits, conduisant à les éteindre ou au moins à les endormir lorsque la logique des blocs est contradictoire avec un conflit donné. Donc ça peut être un facteur d'ordre, paradoxalement, la guerre froide. Mais le plus souvent, ou en tout cas le plus spectaculairement, c'est le sens inverse, c'est-à-dire c'est un facteur de désordre, c'est un facteur de conflit, soit qui contribue au déclenchement d'un conflit, soit qui contribue à l'entretenir, à le faire durer, soit qui contribue à l'intensifier. Là aussi, par des logiques assez simples. C'est le cas des conflits décoloniaux, par exemple, ou des conflits post-décolonisation. Pensez à l'Angola, par exemple. L'intervention des puissances en Angola transforme ce qui aurait été une guerre civile locale en conflit extrêmement long, avec beaucoup d'interventions étrangères, sur presque une trentaine d'années. Et donc, le nombre de morts, l'impact sur la société, tout ça est décuplé par la situation de guerre froide, même si la guerre en Angola se poursuit après, pour des raisons. La guerre froide n'éteint pas à elle seule les logiques de rapport entre puissances.
Vive Portugal, vive Angola indépendente.
Dernière des colonies africaines à accéder à l'indépendance, il n'y aura plus un seul représentant militaire portugais sur le sol d'Angola le 10 novembre à minuit. Mais sur les trois mouvements de libération de l'Angola, seul le MPLA appuyé par les Russes est présent à Luanda. Ce sont eux qui, d'heure en heure, remplaceront les patrouilles portugaises au point stratégique de la ville.
La guerre froide, ça va être, au moins dans les 30 premières années, un des moments hauts, un des moments d'âge d'or de la guerre de guérilla, de la guerre irrégulière, de la guerre dite que les militaires appellent la guerre asymétrique, dans le cadre des guerres de décolonisation, quand elles se colorent d'une teinte de guerre froide, comme c'est souvent le cas. Pensez à l'Indochine pour la France, à l'Indonésie pour les Pays-Bas, et bien d'autres conflits qui se mêlent de dynamiques de guerre froide immédiatement, en fait. Et dans ces conflits-là, c'est de la guerre de guérilla, de la guerre asymétrique, et puis autre type de conflit proche, en fait, et souvent les deux catégories se mêlent. Ce sont des guerres, n'importe quel type de guerre civile, tous les types de guerre civile ou presque. Du coup, d'État, militaire qui dure quelques jours, à la guerre civile plus longue, quel que soit le motif sous-jacent à la guerre civile, la logique de guerre froide s'ingérant dedans, elle va intensifier le conflit, faire durer le conflit, l'élargir en général, etc.
Good morning, Vietnam. This is the Dawn Buster.
La grande rupture au sein de la guerre froide, c'est la guerre du Vietnam, dans les représentations et dans le rapport des sociétés occidentales à la guerre.
Marjolaine Boutet est historienne et spécialiste des séries télévisées.
C'est la seule guerre que les journalistes ont montrée vraiment sans filtre. Et encore une fois, comme la guerre du Vietnam n'avait pas été officiellement déclarée, les journalistes pouvaient se rendre au Vietnam en prenant des vols commerciaux. Alors, leur travail était quand même relativement contrôlé sur place, notamment pour avoir accès aux zones militaires et aux bases militaires. Mais malgré tout, dans Saïgon, ils pouvaient tourner et interviewer à peu près qui ils voulaient. Enfin, vraiment, c'est le seul exemple d'une telle liberté journalistique en zone de conflit. Et les images qu'ils ramènent, alors évidemment, la télévision américaine, elles sont quand même censurées pour la violence la plus graphique. Mais justement, donc, ce qu'on va voir pour la première fois, c'est la jeunesse des soldats, parce que au Vietnam, c'est quand même 19 ans la moyenne d'âge de ces soldats. Et puis le système de conscription américain fait que ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas fini le lycée, qui viennent vraiment des classes très très populaires. Et donc, enfin, évidemment, la guerre froide, ça leur passe complètement au-dessus. Le Vietnam et les Vietnamiens encore plus. Et on sent qu'ils sont totalement perdus, déboussolés. Et je crois que c'est ça qui, sans doute, choque le plus les familles qui voient ça. Et c'est aussi, on voit l'ennui, on voit l'absurdité de ces combats toujours recommencés. Et donc, on va représenter beaucoup plus le soldat comme fatigué, comme psychologiquement atteint et un peu désabusé de ce combat contre des forces qui sont, en plus dans les représentations américaines, enfin les Vietnamiens n'existent pas ou très peu, hein, on est encore dans, c'est la figure de l'Indien dans les westerns, c'est cette espèce d'ennemi sans individualité qui attaque à intervalles réguliers les colons, hein, on est vraiment encore dans cet imaginaire-là qui est aussi un imaginaire évidemment racisé, hein, entre le camp du bien et le camp du mal, et donc tout ça rejoue et change je pense profondément le rapport à la guerre. Et dans les années 80, malgré tout, en tout cas Hollywood, le cinéma et puis un peu plus tard la télévision, va là encore réécrire cette guerre du Vietnam pour permettre aux États-Unis de reprendre confiance dans leurs forces armées. Et les anciens combattants du Vietnam donc commencent à envahir les grands et les petits écrans et ne sont plus des personnages traumatisés comme dans les années 70, mais sont au contraire des soldats qui ont appris quelque chose de leur expérience, de leur engagement, de leur du patriotisme, et qui rendent la société meilleure en lui rappelant les valeurs fondamentales traditionnelles de l'Amérique. On est dans les années Reagan et on est vraiment dans un retour de bâton par rapport aux hippies qui sont désormais rendus responsables des troubles que les États-Unis ont connus à la fin des années 60 et dans les années 70.
C'est terminé, Johnny. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ils savent pas de quoi ils parlent.
C'est un moment dur pour tout le monde.
Igor Kovalchuk accepte de revoir les reporters français dans un hôtel de Toronto en 1987. Il y revoit aussi pour la première fois depuis un an son frère d'armes, Nicolas Saline. La guerre en Afghanistan est alors toujours en cours.
Nos officiers nous lançaient des trucs du style « Les Américains au Vietnam, ils faisaient des saloperies. Et nous aussi, on en fait ici. » Ils reconnaissaient directement. Ils ajoutaient « Et nous, on est meilleurs que les Américains ou quoi ?» Tu vois tout de suite, pire, meilleur, ni remords, ni aucune émotion. Combien des nôtres tombent là-bas ? Et puis nos officiers qui écrivent les faire part. Mort au devoir. Quel devoir ? Une guerre pure et simple. Je pense, pourquoi ? Pourquoi cette horreur ? Pourquoi est-ce que je dois participer à tout ça ? Ce cauchemar, cette horreur.
Ça engage aussi de drôles de situations dans l'après-guerre.
Alexandre Riosbord.
Des situations combattantes au retour dans les métropoles qui sont assez particulières, entourées de beaucoup de silence, parfois de mépris, parfois même d'agression. Hein. On le sait pour la guerre du Vietnam, pour les vétérans américains, les 2,5, 2,7 millions de vétérans américains qui reviennent aux États-Unis. Il y a les blessures, il y a les invalides de guerre, mais il y a aussi le fait que la société se tourne à la fois est très critique lorsqu'ils rentrent, et en plus se détourne très vite de la question pour vite oublier cette guerre après 1974-1975. Et donc ils ont un peu l'impression d'être les héros d'une guerre dont tout le monde se fiche, qui est par ailleurs une guerre impopulaire. C'est l'exact symétrique de la guerre de 1945 à la situation précédente. Pensons symétriquement pour les soviétiques aux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Les soviétiques ont engagé plus de 600 000 soviétiques qui ont servi en Afghanistan. Il y a les morts, les blessés, les malades. Hein. 400 000 des soldats qui ont été engagés sur 600 000 ont connu des maladies assez graves sur place. Et puis surtout, on est les héros d'une guerre perdue par un système qui est en pleine déliquescence, qui 2 ans et demi plus tard finit par carrément disparaître. Et donc on est héros d'une nation qui n'existe plus. Et pendant quelques temps du moins, avant d'être récupéré par le régime poutinien, on est héros d'une guerre que plus personne ne regarde.
Dis-moi franchement, Kazbek, comment tu vois ton avenir ?
Oui, c'est une question plutôt difficile. Je pourrais pas te dire comment je vois mon avenir. Peut-être que je serai mort demain.
Mais quel est ton rêve ?
Ah, mon rêve ? Mon rêve serait d'avoir une maison. Une femme, je suis pas marié. Je suis célibataire. J'aimerais avoir une maison. Une femme, des enfants. Un travail. Travailler paisiblement. Me reposer à la maison comme tous les gens normaux. Je voudrais vivre dans une ambiance normale, avoir une vie normale, mais rien d'autre.
C'est la fin, voilà, de ce mythe aussi du soldat viril.
Marjolaine Boutet.
Et il y a aussi, voilà, le mai 68 et le féminisme et l'évolution de la représentation des hommes qui sont affectés dans leur corps et dans leur esprit par l'expérience de guerre. Et donc, il y a vraiment ce refus jusque... encore une fois en caricature, hein, mais jusqu'à la guerre du Vietnam, aller faire la guerre, c'était devenir un homme, et on en sortait plus fort, et puis ça faisait partie du devoir, c'était quelque chose qu'on remettait pas en cause. À partir de la guerre du Vietnam, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est un sacrifice qui est d'abord un sacrifice personnel, et que les populations et les familles acceptent de moins en moins facilement.
En Union soviétique, où l'information est étroitement contrôlée, les guerres traversent malgré tout les sociétés, qu'elles les observent ou qu'elles y combattent directement.
En ce qui concerne le Vietnam, on va en parler en disant que c'est une guerre menée par les États-Unis dans un objectif impérialiste.
Andrei Kozovoy est historien et spécialiste de la guerre froide côté soviétique.
Et que l'Union soviétique a répondu à son devoir internationaliste en aidant le Vietnam du Nord et en soutenant la population contre les alliés sud-vietnamiens impérialistes et tout ce que vous voulez, qu'on va diaboliser aussi. Voilà. On va pas forcément rentrer dans le détail des offensives, etc., mais on va quand même évidemment présenter ce conflit de manière très manichéenne. On va le dépeindre en noir et blanc.
Le lieutenant va voir le commandant et lui dit « Il faudrait que ces garçons reçoivent le baptême du sang ». Et le vieux con lui dit « Ok, vas-y, il y a justement un village d'une centaine d'habitants derrière les collines, alors allez faire votre putain d'opération là-bas ».
Igor Kovalchuk, en 1985.
À proximité du village, on s'est étalé en tirailleurs pour aborder les premières maisons. Tout allait bien et on s'est répartis comme ça devant. Alors, Polovinkin a fait bon, alors allez-y putain. Et mon copain Georges a défoncé la première porte à coups de pied. À peine est-il entré dans la baraque qu'il a reçu un coup de faucille dans le bide. Il a gueulé, ses tripes ont giclé. Quant au lieutenant Polovinkin, qui se planquait près de la fenêtre, il l'a défoncé à coups de crosse et s'est mis à arroser l'intérieur de balles. Puis on a jeté une grenade offensive. Plein de fumée. Alors, on s'est tous mis à tirer comme des fous par les ouvertures de la maison. Moi, j'essayais de sortir mon pote de là. Puis, quand on a regardé dans la maison, il y avait les restes d'une quinzaine de personnes. Plein d'enfants, du sang, de la bidoche, et puis la puanteur, une vraie boucherie. Et comme ça, d'une bicoque à l'eau. Merde, on s'en va de là comme sous, on ne piche plus rien comme des cons, personne ne parle, on se dit que bon, on a accompli notre mission, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc, sur le chemin du retour, personne ne parle. Il n'y a que les officiers qui n'arrêtent pas de jacter entre eux, comme si tout était normal. Mais pour nous, c'était la première fois, bordel.
En ce qui concerne la guerre d'Afghanistan,
Andrei Kozovoy.
On va en parler très peu, très très peu. Parce qu'on va cacher, évidemment, les difficultés de l'armée russe. L'armée soviétique parvient en décembre 79 donc à renverser le régime de Ravitzullah Amin, qu'on soupçonnait d'être un espion à la solde des Américains. On va évidemment pas raconter qu'il a été massacré, lui et sa famille, par un commando soviétique, à Noël 79. On va parler de l'installation d'un régime progressiste, de Babrak Karmal, et on va minimiser le rôle et les problèmes de l'armée soviétique rencontrés sur place, parce qu'une fois qu'un régime marionnette est installé, normalement l'armée soviétique aurait dû rentrer chez elle. C'était une opération militaire spéciale, pour utiliser une expression actuelle, n'est-ce pas, qui ne devait pas se prolonger. Or, elle va se prolonger, et comme de toute façon il n'y a aucun débat dans la société sur cette question, les informations qui filtrent sont vraiment réduites à leur strict minimum. Bien sûr, on va dépeindre la population afghane comme étant profondément reconnaissante aux soviétiques, de les avoir libérés de ce régime d'oppression, d'avoir stabilisé le pays. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi une guerre civile en Afghanistan, on l'oublie trop souvent, après la prise du pouvoir par les communistes en 78. Et de stabiliser le pays, mais voilà, on va pas du tout parler du succès de la résistance afghane, surtout à partir de 87, quand les Américains se mettent à leur livrer les fameux Stinger, les missiles solaires.
Vous pourriez nous donner une idée du nombre de Russes qui vont combattre en Afghanistan ?
Alors on sait qu'il y a eu 15 000 morts, sauf côté soviétique, pendant cette guerre, c'est le chiffre qui est donné le plus souvent. Il faut parler d'une guerre de 10 ans quand même, 79-89. Beaucoup de gens sont passés par là. On va parler d'Afghans, c'est une véritable génération de soviétiques qui sont passés par là, si vous voulez. Mais encore une fois, on en parle très peu au cours des années de glaciation soviétique, à l'époque de Brejnev, Andropov, Tchernenko. Des rumeurs circulent sur les corps qui arrivent, etc. Mais on sait très très peu de choses sur cette guerre. Elle est largement contenue, on va dire, du côté soviétique, si vous voulez. En ce qui concerne les chiffres, il y avait quand même plus de 600 000 soviétiques, soldats, officiers et personnels de formation qui étaient présents sur place. On parle de autour de 15 000 morts et plus de 600 000 personnes qui ont été sur place pendant ces 10 ans.
Oui, donc c'est une mobilisation massive.
C'est une mobilisation assez massive. 600 000, c'est quand même pas mal du tout. Et ça n'a pas suffi, évidemment, pour contrôler le pays, pour mettre fin à la résistance afghane.
Puisque c'est une défaite.
Et à la fin, c'est une défaite qui ne dit pas son nom, mais on comprend bien ce qui se passe en 1989, quand les soviétiques rentrent chez eux. Ils ne sont pas accueillis en triomphalement.
L'Afghanistan, c'est aussi ça, c'est que les Russes se cassent les dents contre un ennemi régulier qu'ils n'arrivent pas à maîtriser.
Jean-Vincent Olyndre est politiste. Sa spécialité, c'est la stratégie.
Donc c'est l'empire qui est défait par des acteurs irréguliers, lesquels acteurs soutenus par les États-Unis vont ensuite se retourner contre les États-Unis. Et les mêmes États-Unis qui vont, en quelque sorte, se retrouver bien des années plus tard, défaits par ces acteurs qui avaient été soutenus par eux à la fin des années 70, pensant que leur opposition à la Russie valait un soutien définitif. Et donc, cette période qui s'ouvre en 1979, c'est aussi une période qui, non seulement commence à caractériser ce qu'on appelle de manière peut-être un peu vive la désoccidentalisation, en fait. C'est-à-dire le fait que vous avez la montée en puissance d'acteurs qui n'appartiennent pas aux puissances occidentales, C'est aussi la période qui suit la guerre du Vietnam, dont il faut se rappeler qu'elle est un échec important pour les États-Unis. Donc on voit que depuis la fin des années 70, c'est la remise en cause des empires, l'empire soviétique, mais aussi d'une certaine manière un empire qui n'en est pas un véritablement, mais qui a une tentation d'empire, qui sont les États-Unis.
C'est bien ce que vont critiquer les opinions publiques, après tout, principalement, cette nature guerrière de la guerre froide.
Alexandre Riosbord.
Hein, c'est bien ça qui provoque des oppositions, des critiques, des controverses dans les années 50, autour du mouvement pour la paix, dans les années 60 et 70, sur les campus universitaires, puis dans la rue. C'est bien la guerre du Vietnam qu'on critique. Hein, c'est bien avant ça la guerre d'Indochine qu'on avait critiquée en France. C'est bien la crise des missiles en Europe qui provoque un mouvement de protestation contre la guerre froide en Allemagne et à l'échelle européenne. Donc c'est bien la guerre qui est critiquée, c'est bien la guerre qui fait aussi, pour les opinions publiques, l'essence de la guerre froide, son danger et sa nature déraisonnable d'une certaine manière, puisqu'elle peut toujours aboutir, toile de fond, à la guerre nucléaire. Et puis, en tout cas, c'est ce que va retenir la mémoire collective, cette guerre froide, elle s'achève bien comme conséquence de faits guerriers. En tout cas, c'est ce que retient la mémoire collective. La mémoire collective retient quoi ? Elle retient que l'Union soviétique s'est effondrée d'épuisement dans le conflit afghan, qui est un conflit de guerre froide. Alors bien sûr, la guerre froide se termine pour d'autres raisons, d'autres choses sont engagées, et une analyse de la guerre froide ne saurait se résoudre à ça.
La guerre froide, dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hill. Where are the girls? Nuclear weapons. Épisode 8, l'enfant qui sauve le monde. C'est l'histoire d'une enfant qui s'apprête à faire un grand voyage. En 1982, la guerre froide l'est un peu moins froide. Les relations entre l'Est et l'Ouest sont tendues et Samantha Smith, 11 ans, a vu comme de très nombreux Américains le film Catastrophe, le jour d'après, qui décrit la destruction du monde et la vie sans espoir des rescapés après un affrontement nucléaire entre l'OTAN et les forces du pacte de Varsovie. Alors elle décide d'envoyer une lettre au nouveau dirigeant de l'Union soviétique, Yuri Andropov.
Cher monsieur Andropov, je m'appelle Samantha Smith, j'ai 10 ans. Félicitations pour votre nouvelle fonction. Je me suis inquiétée à propos d'une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que vous allez voter pour avoir une guerre ou pas ? Si vous ne la voulez pas, dites-moi s'il vous plaît comment vous allez faire pour qu'il n'y ait pas de guerre. Une autre question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est que j'aimerais savoir pourquoi vous voulez conquérir le monde ou au moins notre pays. Dieu a fait le monde pour que nous y vivions tous ensemble dans la paix, pas pour nous combattre. Bien à vous, Samantha Smith.
C'est la première fois à ma connaissance que un enfant va être utilisé dans un but de propagande dans un contexte de guerre froide.
Andrei Kozovoy est historien et spécialiste de la guerre froide côté soviétique.
Donc, on ignore exactement par qui cette lettre est passée. Elle est passée certainement aussi par l'ambassade soviétique aux États-Unis. Sans doute l'ambassadeur soviétique aux États-Unis qui s'appelait Dobrynin a joué un rôle en suggérant sans doute aux instances du parti et si on n'utilisait pas cette lettre à des fins de propagande en disant après tout quoi de plus efficace qu'une opération qui mettrait en scène un enfant. On croit un enfant, il est crédible et donc en l'invitant en Union soviétique pour constater que les enfants soviétiques sont des enfants comme les autres qui jouent comme les enfants américains qui ont les mêmes préoccupations, et les dirigeants ne veulent surtout pas la guerre. La propagande anti-soviétique aux États-Unis ne correspond pas du tout à la réalité, quoi. Et donc elle va recevoir une réponse quelques temps plus tard.
Cher Samantha, nous ne voulons rien de ce genre. Personne dans ce pays, ni les ouvriers et les paysans, ni les écrivains et les médecins, ni les adultes et les enfants, ni les membres du gouvernement, ne veulent d'une guerre grande ou petite. Nous voulons la paix. Et nous avons d'autres occupations. Faire pousser du blé, construire et inventer, écrire des livres et s'envoler dans l'espace. Nous voulons la paix pour nous-mêmes et pour tous les peuples de cette planète. Pour nos enfants et pour toi, Samantha. Je t'invite, si tes parents sont d'accord, à venir dans notre pays, l'été étant la meilleure saison. Tu rencontreras des jeunes gens de ton âge en visitant un camp international pour enfants, Artek, au bord de la mer. Et tu le constateras par toi-même, en Union soviétique, chacun est pour la paix et l'amitié entre les peuples. Merci pour ta lettre. Je te souhaite le meilleur dans la vie. Yuri Andropov. What's going on?
They're on their way to Russia. Le voyage est organisé pour Samantha et bien sûr pour toutes les télés du monde. Si les relations sont tendues au début des années 80, C'est encore une fois autour de la question de l'armement et du nucléaire. De part et d'autre de la ligne qui sépare l'Est et l'Ouest, des missiles hérissent le paysage et inquiètent les sociétés civiles. Le film que Samantha a vu à la télé décrit la réalisation de cette terreur incarnée par les missiles Pershing de l'OTAN et les SS-20 soviétiques. Un regain d'angoisse de la destruction qui épuise les opinions publiques. On cherche des solutions.
On va avoir pour le nucléaire ce qu'on va appeler les négociations SALT, qui commencent à Helsinki en 1969, Strategic Arms Limitation Talks.
Nicolas Badalassi est historien, spécialiste de la guerre froide.
Donc les négociations sur la limitation des armements, qui aboutit en 1972 au traité de Moscou, qui effectivement, pour la première fois, limite le nombre d'armements offensifs des deux grands. Mais on n'est pas du tout dans une logique de désarmement à ce moment-là. Et ce traité SALT va être prolongé par la suite avec des négociations SALT 2 en 1979. Le traité, lui, ne sera pas ratifié parce que aux États-Unis, justement, se développe le débat sur le fait que la détente et les négociations de limitation des armements affaiblissent l'Amérique. Donc, dans un contexte où l'URSS envahit l'Afghanistan en 79, d'aucuns à Washington considèrent qu'il faut en finir avec ces négociations et reprendre l'offensive. Et il se trouve qu'à Moscou, dans la deuxième moitié des années 70, on a exactement la même impression. La deuxième moitié des années 70 en URSS, c'est le vieillissement du pouvoir. On parle souvent de gérontocratie pour qualifier l'URSS de la fin des années 70, début des années 80. Brejnev, qui a succédé à Khrouchtchev en 64, il vieillit. Il s'intéresse de moins en moins aux affaires internationales. Il est de plus en plus incapable, en fait, de prendre des décisions. Ce qui fait que dans l'appareil soviétique, ce sont les militaires qui prennent véritablement le dessus dans la deuxième moitié de la décennie 70. Et les militaires, eux aussi, considèrent qu'il ne faut pas baisser la garde. Donc, on repart dans une logique de course aux armements à partir de 1976-1977, d'un côté comme de l'autre. Et la crise qui symbolise cette reprise de la course aux armements, c'est ce qu'on appelle la crise des euromissiles, qui voit l'URSS déployer ce qu'on appelle des SS-20, donc des nouveaux missiles de courte et moyenne portée, le long du rideau de fer. Alors, en plus, ce sont des missiles dits MIRV, c'est-à-dire à plusieurs têtes. Sur un même missile, vous pouvez mettre plusieurs têtes nucléaires, donc c'est perçu comme extrêmement dangereux. Et ces missiles-là ne rentrent pas dans la négociation SALT. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout comptabilisés dans les négociations qui se sont terminées en 72. Donc, les soviétiques font ça dans la légalité, en réalité. Mais côté américain, on va là aussi se lancer dans une logique similaire, qui va aboutir à un paroxysme, qui est, à un moment de l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, le fameux projet IDS, c'est-à-dire Initiative de Défense Stratégique. Reagan, un peu comme Eisenhower, il est l'un de ces présidents américains qui considère que le nucléaire, c'est le mal. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être perçu par l'histoire, et d'abord par son opinion publique, comme le président qui aura appuyé sur le bouton et qui aura tout fait sauter. Donc, ce qu'il fait dès le moment où il arrive au pouvoir pour en finir avec la course aux armements, eh bien, il présente un projet en 1983, qui consisterait tout simplement à rendre inutile toute arme nucléaire à la surface de la Terre. Il s'agirait d'un projet fondé sur un système de satellites dans l'espace qui repérerait le moindre tir à la surface de la Terre d'armes nucléaires. Le satellite en question pourrait, grâce à un champ électromagnétique, détruire l'arme qui serait tirée. Qui, dans ce cas-là, signifierait que, vu que vous avez un système de satellite capable de stopper tout missile, ça rendrait inutile tout missile. Évidemment, face à ce système-là, alors qui n'est pas construit dans l'immédiat, parce que ça demande énormément de fonds, mais Reagan met l'URSS au pied du mur. Soit vous suivez et vous êtes capable de mettre sur pied un système similaire, soit vous acceptez la négociation. C'est donc beaucoup de bluff à la base, mais qui va formidablement fonctionner.
Samantha Smith va donc abandonner pendant 15 jours le patin à roulettes pour un beau voyage qui ressemble tout de même à une forme de diplomatie. Hier, elle préparait sa valise avec passion, comme toute petite fille de son âge qui voit un rêve se réaliser.
Chaque minute du voyage de Samantha est enregistrée. On la voit préparer sa valise, monter dans l'avion qui l'amène à Moscou, descendre de l'avion qui arrive à Moscou et toute petite au milieu des micros et des caméras qui se pressent autour d'elle. Jusqu'ici, l'opération de communication est une réussite.
The kids here and all the people here
are really much like Americans.
Les enfants et les gens d'ici ressemblent aux Américains, à l'exception de la langue. Je n'ai pas eu de mal à me faire des amis à Artec avec les enfants qui parlent anglais.
In Artec, let's say, with the children there that spoke English.
Donc, la couverture médiatique sera impressionnante côté soviétique, avec des photos, et en plus elle est très photogénique.
Andrei Kozovoy.
Donc ça contribue, je pense, aussi à la diffusion de cette image. Et il y a quand même ce qu'on appelle les effets pervers. Le but n'a pas forcément été atteint, parce que côté soviétique, les jeunes ont surtout été séduits par cet enfant. Leur fascination pour le monde américain s'en est trouvée renforcée. On sait par exemple qu'elle a été assaillie dans ce fameux camp Artec de demandes d'enfants pour du chewing-gum, pour des stylos billes, enfin tout ce qui manquait quoi en Union soviétique. La dimension de la culture matérielle, quoi. Donc ça a donné aussi pas mal de tracas aux responsables de ce camp, en fait.
C'est d'autant plus compliqué,
Nicolas Badalassi,
que dans les années 70, lorsque la propagande soviétique continue à présenter l'Allemagne comme revancharde et qu'au nom des 25 millions de morts soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, il faut continuer à s'opposer à la Renaissance allemande, ou en tout cas à l'Occident, ce message-là, on ne voit pas comment il pourrait passer, dans la mesure où on a un chancelier, notamment en Allemagne, qui s'appelle Willy Brandt, qui a fui l'Allemagne nazie dès 1933, qui est donc absolument pas jugé responsable du nazisme, hein, puisque lui-même ne l'était pas, et qui symbolise le changement, finalement, de génération en Allemagne. Donc, en fait...
En Allemagne de l'Ouest.
En Allemagne de l'Ouest, bien sûr. Donc, le roman national et idéologique soviétique tombe à ce moment-là, au cours de cette décennie, et les publications... les fameux samizdat, c'est-à-dire les livres interdits publiés à l'Ouest des dissidents, comme l'Archipel du Goulag, qui est le plus célèbre, n'aide pas non plus. Parce que la vérité sur ce qu'est l'URSS apparaît au grand jour. On le voit très bien en France, par exemple, où vous avez des penseurs, des intellectuels ancrés à gauche, qui aussi avouent à quel point ils se sont trompés sur le régime soviétique. C'est partout en Occident. Donc oui, ce changement de génération à l'Est comme à l'Ouest, en fait... discrédite le modèle soviétique. Et la succession des événements à partir de 78-79 va enfoncer encore plus l'URSS. L'invasion de l'Afghanistan, qui est l'une peut-être des pires erreurs que les soviétiques aient faites, parce qu'ils se sont mis à dos tout le monde musulman, alors qu'une partie du monde musulman était proche d'eux. Là, en fait, ils arrivent à se couper de l'un de leurs principaux soutiens dans le tiers-monde. La crise polonaise, dans la première moitié des années 80, avec l'apparition du syndicat Solidarnosc, qui montre à quel point l'URSS n'est plus capable d'intervenir. Comme son armée est en Afghanistan, elle ne veut pas s'enliser sur deux fronts à la fois. Donc le fait que les Polonais se révoltent et que l'URSS soit en réalité incapable de répondre, ça montre son affaiblissement. Reagan et le fameux projet Star Wars IDS, qui met, comme je l'ai dit, les soviétiques au pied du mur. Et puis, petit à petit, l'arrivée d'une nouvelle génération avec Gorbatchev, qui lui a bien compris qu'il fallait revoir le modèle. Gorbatchev ne souhaite pas sortir du communisme, hein, mais il souhaite réformer le système. Et Gorbatchev négocie en plus. Il négocie très bien avec Reagan. Il négocie le désarmement. C'est-à-dire que c'est vraiment avec Gorbatchev qu'on passe de la logique de limitation des armements au désarmement, parce qu'il a bien compris que l'économie soviétique ne serait pas viable à long terme si jamais on ne diminuait pas les dépenses. Or, Reagan, dans son deuxième mandat, à partir de 84, c'est l'un de ses objectifs. Dans la mesure où l'IDS a bien montré que l'URSS ne suivrait pas, il est temps désormais de négocier. Et là commencent les vraies négociations. Et on va petit à petit se diriger vers le traité START, signé en 1991, où là, à la place, c'est plus SALT. SALT, c'est L, Limitation. START, c'est Reduction. Donc on voit qu'on entre dans une toute nouvelle logique. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça ne plaît pas aux militaires. Pour commencer.
Il y avait surtout le développement des relations de toutes sortes, relations économiques, échanges universitaires.
Sabine Dulin est spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Europe orientale.
En France, les premiers étudiants, qui, par exemple historiens, qui travaillent sur la Russie, peuvent partir un an avec des bourses dans les années 60 grâce aux accords entre De Gaulle et la Russie. Moi-même, la première fois que je suis partie apprendre le russe, c'était encore l'URSS. Et c'était selon un article du protocole franco-soviétique qui avait été mis en place à l'époque de De Gaulle. Donc, c'est plutôt tous ces échanges qui ont pu se mettre en place, qui ont, de ce fait, très largement contourné ce rideau de fer, cette fermeture des sociétés qui existaient à l'époque précédente. Et c'est véritablement cette multiplicité des contacts qui a pu jouer un rôle dans l'érosion de l'idéologie, dans la découverte aussi d'un monde occidental finalement assez attractif. Eh bien, c'est sans aucun doute tout ça qui va beaucoup éroder les affirmations marxistes-léninistes qui indiquaient quand même que l'Occident était un lieu uniquement d'exploitation, de pauvreté. Et évidemment, le contact démontrait que tout était plus compliqué et qu'au fond, souvent, les Occidentaux vivaient mieux que la manière dont on vivait en Europe de l'Est. Would you welcome Samantha Smith?
À son retour, Samantha Smith est célébrée par les médias, invitée au plus grand show télévisé et portée au nu pour avoir courageusement franchi le mur. L'opération Samantha Smith est un succès, mais un succès qui ne dure pas.
Yeah, I know you were excited the last time we talked about going to the Soviet Union. Tell me about the trip. Now, how did you prepare?
Since we were gonna be meeting lots of kids.
Right.
Et puis l'autre gros problème de Samantha Smith, c'est qu'elle arrive donc en août, elle repart, mais le problème c'est que dans la nuit du 31 août au 1er septembre 83,
Andrei Kozovoy,
l'URSS va se tirer une balle dans le pied en abattant un avion civil sud-coréen qui avait violé l'espace aérien soviétique. Et cette méprise, en fait, ils l'ont pris pour un avion espion, fait 269 morts. Et donc, l'impact potentiel positif en termes d'image pour l'Union soviétique de ce voyage de Samantha Smith, il va être réduit à néant suite à ce drame qui se produit, en fait, peu de temps après. Voilà. Et ce qui donne, bien sûr, au président Reagan l'occasion de dire « Je vous avais dit que l'Union soviétique, c'est l'empire du mal. » C'est un discours, célèbre discours qu'il prononce au cours de l'année 83. Et bien là, vous en avez la preuve.
Je vous exhorte à vous opposer à ceux qui ont placé l'Amérique en situation d'infériorité militaire et morale. Je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, la tentation de vous déclarer au-dessus de tout cela et de considérer que les deux côtés se valent, d'ignorer l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal. Ainsi, vous retirez de la lutte entre le vrai et le faux, le bien et le mal.
Qui d'autre qu'un empire du mal peut tirer ainsi sur un avion civil juste parce qu'il a violé l'espace aérien de ce pays, quoi.
Donc les vacances de Samantha Smith font pâle figure à côté de cet événement.
Bien sûr, tout ça, ça va être rapidement oublié, mais l'impact, si vous voulez, en termes de longue durée, va être quand même important côté soviétique. Hein. La mémoire de ce voyage, elle va rester chez les soviétiques qui s'en souviennent, qui lisaient la presse à ce moment-là, qui ont suivi les informations, parce qu'il faut bien se rendre compte de quelque chose, que on parle très peu de ce qui se passe réellement en Occident à ce moment-là. Il y a une vraie soif, un vrai appétit pour l'information en provenance d'Occident. Donc, ça explique qu'il y a beaucoup de soviétiques qui s'intéressent énormément à la politique étrangère, qui vont aller poser des questions parfois très dérangeantes aux propagandistes qui font ces conférences, qui vont écouter des radios qui normalement sont censées être brouillées, des radios étrangères comme Voice of America par exemple, Voix de l'Amérique. Et donc là, enfin, on a un personnage qui n'est pas un adulte, un enfant, et donc ça répond aux préoccupations, aux intérêts, aux curiosités, aux questions que peuvent se poser les enfants, les adolescents soviétiques. C'est des questions tout à fait normales. C'est comment est-ce qu'on vit là-bas? Est-ce que les gens sont vraiment malheureux aux États-Unis? Comment on nous l'explique? Là, au contraire, on a quelqu'un qui respire la joie de vivre, Samantha Smith. Et cette mémoire, elle va subsister, et quand Samantha Smith va mourir dans un accident d'avion en 1986, ce sera un véritable drame pour beaucoup de soviétiques. On va en énormément en parler à ce moment-là.
Au même moment, la guerre continue en Afghanistan. Une guerre mal vue par les opinions publiques, à l'ouest, mais aussi à l'est.
Bonjour camarades. Déclaration du gouvernement soviétique. En agissant d'après le respect complet des accords de Genève, l'URSS a terminé le retrait de ses troupes d'Afghanistan. Dorénavant, dans ce pays, il ne reste plus aucun soldat soviétique.
Et c'est donc Gorbatchev, une fois de plus, qui va annoncer à ses collègues du Politburo à partir des années 86-87 qu'il faut absolument arrêter cette guerre et qu'on va mettre fin parce qu'il faut donner des gages aux Occidentaux. En même moment, en se montrant comme un pays qui veut effectivement mettre fin à la guerre. On ne peut pas continuer à avoir un dialogue avec les Occidentaux tout en menant cette guerre en Afghanistan. C'est ce que Gorbatchev s'est forcé de faire. Et le retrait définitif des forces, on sait, aura lieu en 89. Mais je vais quand même souligner quelque chose, c'est que les médias, oui, cachent beaucoup de choses, mais dans le même temps, et c'est grâce à Gorbatchev qu'on va le savoir, les mères de soldats, notamment, écrivent des lettres déchirantes souvent au Politburo, c'est-à-dire l'organe central décisionnel du Parti communiste soviétique, comité central, etc. Ils écrivent des lettres en demandant ce que deviennent leurs enfants sur place, pourquoi est-ce qu'ils restent sur place, et quel est le but de cette guerre, pourquoi elle ne s'arrête pas, etc. Voilà. Parce qu'il y a une contradiction, évidemment, entre le message officiel soviétique qui est celui de dire « nous sommes pour la paix, nous défendons la paix, nous sommes des pacifistes pour une paix armée, certes ». Et puis, dans le même temps, continuer cette guerre absolument absurde, dont le but est totalement incompris des soviétiques de la base.
Évidemment, tout ça se voit particulièrement au moment de Tchernobyl, hein, où finalement, Gorbatchev lui-même n'arrive pas à être informé de ce qui se passe véritablement, à cause de tous ces écrans successifs qui font qu'on ne peut pas véritablement faire du management efficace.
Sabine Dulin.
Et donc, je pense que là, c'est suffisamment grave, cette catastrophe nucléaire, pour que Gorbatchev, mais pas seulement Gorbatchev, son entourage, prenne conscience du fait que là, il est temps effectivement de modifier les règles du jeu et de fluidifier un petit peu le fonctionnement du système. Hein. Ben, ça va pas être évident, mais c'est vrai que c'est, je pense, un électrochoc qui accélère les choses, et finalement, dans l'accélération, ce qui va dominer, c'est le démantèlement d'un système, mais pas véritablement la reconfiguration du système, qui était sans doute très très difficile à imaginer. Donc ça va aller dans le sens, finalement, d'un effondrement de ce qui existait.
La guerre froide se termine-t-elle avec la chute du mur de Berlin ? Le souvenir qui me reste de cet événement, ce sont des adultes qui n'en peuvent plus de joie, et promettent les larmes aux yeux que le monde va changer, c'est certain. Le même, mais en plus beau, en plus brillant, en plus éclatant. Une fin heureuse pour l'éternité. Mais avec la disparition du mur, la guerre froide n'est pas encore tout à fait terminée.
Alors, si vous voulez hein, une vraie date à laquelle on se met d'accord là-dessus, c'est décembre 1989, sommet de Malte.
Nicolas Badalassi.
Lorsque, effectivement, George Bush, qui était le vice-président de Reagan et qui est devenu président, hein, et Gorbatchev officialisent la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que c'est un des terminés de la compétition idéologique. Gorbatchev accepte de ne plus soutenir les mouvements marxistes dans le tiers-monde. Donc, c'est une vraie réconciliation à ce moment-là. Et Bush, d'ailleurs, va tout faire pour éviter le triomphalisme, désormais, pour ne pas humilier Gorbatchev, contrairement à ce que dit M. Poutine aujourd'hui, et faire en sorte d'intégrer progressivement l'Union soviétique dans le système mondialisé occidental. Mais cette rencontre de Malte en décembre 89, c'est un vrai moment de dialogue et une reconnaissance officielle de la fin de la guerre froide. Mais les jeux sont déjà faits à ce moment-là, puisque à partir du moment où, en 88, Gorbatchev a décidé de réduire considérablement la voilure sur les troupes soviétiques déployées à l'étranger, c'est-à-dire qu'il retire 500 000 hommes d'Europe de l'Est, à partir du moment où, en 1989, il refuse d'envoyer l'armée à Berlin pour réprimer les mouvements qui conduisent à la chute du mur, eh bien, on voit bien que c'est fini. L'URSS n'est plus du tout dans la même logique, donc Malte est souvent présentée comme la fin de la guerre froide, mais en réalité, c'est un processus progressif, en fait. Alors, entre 1988, le moment où Gorbatchev perd pied, en quelque sorte, et la chute définitive de l'URSS en 1991, où, après le putsch raté contre Gorbatchev par les durs du régime, on voit bien que ça en est fini de l'URSS. Donc, on est plutôt sur la durée, mais une courte durée finalement, puisque c'est à peine 3-4 ans.
Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle, la liberté de passer pratiquement sans entrave d'un côté à l'autre de l'Allemagne. Extraordinaire, sensationnel, en un mot historique.
Quand le mur tombe, ce qui tombe surtout, c'est la capacité du régime est-allemand à être légitime auprès de sa population.
Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, la RDA.
Il est rendu possible évidemment par le feu vert indirect de Mikhaïl Gorbatchev qui laisse les chars soviétiques dans les casernes et qui n'autorise pas finalement les Allemands de l'Est à recourir à la force. Mais même les réformateurs est allemands ne sont pas forcément convaincus que la force est une solution et qu'il vaut mieux essayer de garder la tête du bateau en pilotant une vague réforme démocratique. Mais peut-être que la guerre froide, alors soit elle se termine après 1990, mais on peut aussi imaginer que d'une certaine manière, elle est déjà terminée avant 1989, vous voyez. J'aime souvent citer cet ouvrage d'un journaliste allemand qui s'appelle Peter Bender, qui écrit en 1979 un essai roboratif dans lequel il défend la thèse selon laquelle la guerre froide est terminée. Parce que la manière de penser le monde de façon bipolaire est plus du tout adaptée aux enjeux globaux du monde, qui sont des enjeux migratoires, environnementaux. À l'époque, on parlait des pluies acides qui ravageaient les forêts, et que donc le cadre bipolaire, il est plus pertinent. Par contre, les dirigeants est-allemands, eux, ceux qui restent en place jusqu'en 1989, ils sont convaincus que le cadre de la guerre froide, il est encore opératoire, qu'il y a le camp du bien et le camp du mal, et que l'impérialisme cherchera toujours à déstabiliser le camp du socialisme en distillant le poison de la révolte et de la discorde. Donc il y a plusieurs manières en fait de voir les débuts et les fins de la guerre froide, ce qui fait que cet objet est toujours aussi passionnant à étudier.
Alors que la guerre froide n'était plus qu'un souvenir enterré, elle est toujours là, active dans nos têtes, elle nous habite. Comme une impression d'avoir mal terminé. Un triomphe trompeur sur le passé.
Sur le moment, je pense que tout le monde pense que c'est un succès.
Sabine Dulin.
Puisque d'abord, c'est quand même globalement très pacifique. Il y a seulement Tiananmen en Chine, et puis quelques répressions en Géorgie, au Kazakhstan... Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais globalement, à l'échelle de ce que représentait le bloc soviétique, ce qui frappe, c'est à la fois la vitesse du changement, puisque en 89, en fait, l'ensemble du bloc de l'Est se transforme en régime démocratiquement élu, plus la réunification allemande, et personne ne s'y attendait, ni Gorbatchev, mais pas non plus Mitterrand, Thatcher, etc. Donc c'est la vitesse et le caractère pacifique de cet ensemble qui fait que au sortir de ces années 89-91 l'idée c'est plutôt une grande victoire, une libération, un succès, l'absence de sang versé ou presque.
C'est une guerre qui ne se termine pas par une victoire militaire puisque précisément c'est pas une guerre ouverte.
Jean-Vincent Olyndre est politiste, sa spécialité c'est la stratégie.
C'est une guerre qui s'achève, si tant est qu'on puisse employer cette expression, par l'implosion d'un des belligérants sur cette période qui va de 89 à 1991. Et donc, c'est une guerre qui n'est pas gagnée par les États-Unis. C'est là la grande méprise, en fait, par rapport à l'interprétation de l'après-guerre froide. Il n'est pas certain que la Russie, contrairement à ce que dit Vladimir Poutine, ait été humiliée par les États-Unis. Mais ce qui est vrai, parce que évidemment, ce discours de l'humiliation, c'est une manière pour Vladimir Poutine de justifier en quelque sorte sa manière d'avoir fait la guerre, d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années. Il faut recouvrer l'honneur parce qu'on a été humilié. Je ne crois pas que ce soit exact. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les États-Unis ont fait comme s'ils avaient gagné la guerre froide, alors qu'en réalité, c'est une guerre qui a d'abord été perdue par la Russie, au sens où le modèle soviétique s'est effondré. C'est un modèle qui, à un moment donné, n'était plus opérant, qui ne pouvait plus fonctionner. C'est très différent. Et donc, peut-être que les États-Unis se sont mis dans une situation où ils ont considéré que c'était leur modèle qui avait gagné. Gagner la guerre froide, au sens où le modèle libéral l'emportait et où le droit et la démocratie, tel qu'ils le concevaient, devaient s'étendre. C'est le fameux discours du nouvel ordre mondial de George Bush père, ce discours de diffusion des normes libérales. On sait bien aujourd'hui, 30 ans plus tard, que c'est pas ce qui s'est passé du tout. Et que la mondialisation n'est pas homogénéisation, et au contraire, que la revendication d'identité particulière n'a jamais été aussi forte que dans cette période de mondialisation. Et c'est peut-être là l'erreur de l'hyperpuissance américaine. C'est de ne pas avoir tiré la leçon de la fin de la guerre froide, non pas en humiliant la Russie, mais en se concevant comme la puissance qui allait normer le monde. Et en relation internationale, ce type d'initiative visant à normer le monde, le type, je dirais, qui renvoie à la tentation impériale, on sait que ça débouche en général sur, je ne dirais pas une défaite, mais sur quelque chose qui n'est pas une victoire. Hein. Et là, il y a une erreur d'appréciation des États-Unis, sans doute aussi des puissances occidentales, sans doute aussi que les pays européens, au lendemain de la guerre froide, n'ont pas suffisamment tenu compte de leur spécificité. Parce que l'Europe a été l'épicentre des guerres du XXe siècle. Et ils ont considéré qu'avec la fin de la guerre froide, au fond, l'Europe ne serait plus l'épicentre des guerres et ne serait plus l'épicentre du monde. Là, il y a une responsabilité des différents pays européens, une grande responsabilité de l'Allemagne, dont on peut comprendre que, voilà, qu'elle n'ait pas souhaité se réarmer. C'est-à-dire, c'est parfaitement compréhensible, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on en paye le prix. Pendant 20 ans, on s'est dit, voilà, ce monde de la guerre froide a disparu. Non, en fait, il n'a pas disparu. Premièrement. Et deuxièmement, nous n'avons pas su véritablement tirer la leçon de cette période, non pas parce qu'on a rabaissé la Russie, c'est pas exact, mais parce qu'on tout simplement on s'est cru peut-être moins vulnérable que nous l'étions véritablement.
Merci à Sabine Dulin, Andrei Kozovoy, Emmanuel Droit, Jean-Vincent Olindre, Alexandre Riosbord, Marjolaine Boutet et Nicolas Badalassi. Merci également à Claude Rouault et à Matteo Demoura. Recherche musicale, Antoine Vuillaus. Prise de son, Andreas Jaffré et Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Perrine Kervran. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier. C'était La guerre froide dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hue.